des textes qui sont clairs. Donc, quelles sont donc ces preuves bibliques qu'on va voir ce matin? On va en voir plusieurs. On va voir d'abord les noms divins, le nom Dieu, Fils de Dieu, Seigneur, les Je suis, etc. Ensuite, on va voir les attributs divins, on va voir les œuvres divines et on va voir les honneurs divins. C'est notre programme ce matin. Plusieurs noms, donc, ou titres ont été utilisés dans le Nouveau Testament pour désigner Jésus, et parmi ces titres, certains dénotent de façon évidente la divinité de Christ. Dans ces titres-là, on va en regarder quatre particulièrement. Le titre Dieu. Est-ce que Jésus s'appelle Dieu ou est-ce qu'on a déjà dit Dieu à Jésus? On va regarder le titre Fils de Dieu, le titre Seigneur et les Je suis. Alors, le titre Dieu est habituellement réservé au Père dans la Bible, mais Jésus reçoit ce titre aussi dans plusieurs passages. Et si on veut être vraiment objectif ici, on va se limiter aux citations qui sont exclusives dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'on ne prendra pas, par exemple, des textes de Matthieu 1, 23 qui cite Ésaïe 7 quand il dit « On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous ». On regardera pas ces textes-là. Un autre texte, genre Hébreux 1, 8, 9, qui cite le psaume 45, « C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint ». C'est pas les expressions-là dont on va parler ce matin. On veut être objectif, on va se concentrer sur ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Alors, le premier texte qu'on regarde ensemble, c'est Jean 1, 1, texte que vous connaissez sûrement. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » OK? Alors, c'est un texte qui est certainement très clair, très explicite, référence claire à la Genèse, Dieu qui a créé par sa parole. La parole, le Logos qui a été fait chair, c'est Jésus et il est Dieu. La structure de phrase est très, très, très claire. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et qui est la parole? C'est Christ. On le déduit, mais c'est très clair. Alors ça, c'est un texte plutôt qui a été contesté, notamment par les témoins de Jéhovah, en effet. Et qu'est-ce qu'ils disent? Les témoins de Jéhovah pour contester ce texte-là. Ils vont dire qu'il y a un D minuscule et que c'est un petit Dieu. Est-ce que ça a du sens? Non. C'est le texte grec est écrit tout en majuscule. Il n'y a même pas de minuscule puis de majuscule. OK? Ensuite, ils vont dire que l'article, il manque un article. Hein? Ils vont dire que ici, c'est théos et que lorsqu'on parle de Dieu le Père, c'est hôtéos. Maintenant, c'est une distinction qui apparaît pas du tout dans le Nouveau Testament. Et l'absence de l'article répond plutôt à une exigence grammaticale. Et dans Jean 20, 28, Thomas répond « Mon Seigneur et mon Dieu », vous vous souvenez? Alors, certains ont dit quoi pour contester ce texte-là? C'est ça, ça a l'air que Thomas aurait sacré en disant « Mon Dieu ». Ok, Jésus l'a pas repris, il était très, très gracieux là-dedans. Mais Thomas, dans cette expression-là, « Mon Seigneur et mon Dieu », utilise l'article « hôtéos », le « haut » de « théos ». Donc, juste pour dire que cet argument-là d'article non plus ne tient pas. Donc, au commencement, la parole était Dieu. Au commencement, plutôt, était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Premier texte qui parle de la divinité de Christ. Dans Acte 20, 28, un autre texte ici, un petit peu plus controversé. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. » Qu'il s'est acquise par son propre sang. Alors, l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise, que Dieu s'est acquis par son propre sang. Alors, évidemment, seul le Fils incarné a pu verser son sang. Donc, d'où la déduction ici qu'il s'agit bien du Fils de Dieu, de Christ qui est Dieu. Mais le texte est controversé pour plusieurs raisons. Alors, l'idée, c'est que plusieurs manuscrits ont Seigneur au lieu de Dieu. Et donc, c'est pas écrit l'Église de Dieu, c'est écrit l'Église du Seigneur. On va voir tantôt que le titre Seigneur est aussi un titre divin, mais pour l'instant, disons qu'il y a des gens qui contestent en disant que certains manuscrits mentionnent Seigneur. Darby a traduit « dans l'Assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son Fils ». Mais encore une fois, Darby, qui est quand même reconnu pour être très littéral dans sa traduction, le mot « fils » n'apparaît pas nulle part. Donc, c'est une traduction qui n'est pas justifiée. Dieu ou Seigneur, donc, ne fait pas de différence, on va le voir tantôt, et c'est pourquoi on va accepter ce texte-là comme aussi attestant de la divinité de Christ. Mais on a ici un texte qui est quand même plus obscur, manifestement, dans Acte 20, 28. Romains 9 nous parle des Israélites et des patriarches, de qui est issu le Christ selon la chair, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Alors, un très beau témoignage ici de Paul qui parle de Jésus et qu'il l'appelle Dieu béni éternellement. Alors, les critiques ont évidemment cherché des échappatoires pour ne pas accepter ce texte-là. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Comment est-ce qu'on pourrait contester ce texte-là? C'était une doxologie. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi une doxologie? Une doxologie, c'est une... Pardon? Excuse-moi? Science de la doctrine. Non, 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 non. Une doxologie, c'est une louange à Dieu. Alors, si je vous parle de Dieu, puis je dis « Ah, Dieu béni éternellement! » Je parle de Christ, puis je dis « Ah, Dieu soit béni éternellement pour Christ, genre. » OK? Alors, ce ne serait pas impossible, en passant, que le texte soit ça. Maintenant, la structure du texte ne se prête pas non plus à cette traduction-là. Et si on regarde plutôt le texte, on voit que le Christ Dieu fait contrepoids au Christ selon la chair. Et ça, c'est plus conforme, encore une fois, à la logique de Paul dans les autres Écritures. Paul fait le parallèle entre le Christ de la chair et le Christ... je vous le relis, donnez-moi deux secondes. Donc, il parle des Israélites, de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Donc, voyez-vous qu'il y a un contrepoids entre le Dieu fait chair, entre Christ fait chair et le Dieu éternel. Donc, un autre beau texte en Romains. Tite 2, 13 nous dit, « En attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. » Alors, manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La critique va dire que le grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ sont deux personnes différentes. Mais ce n'est pas tellement le cas. Certaines versions ont même mis la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ pour montrer, pour essayer de réconcilier que le texte pourrait ne pas dire que Jésus-Christ est Dieu. En faveur de la divinité de Jésus-Christ, nous, on va dire qu'il y a un seul article qui est utilisé pour les deux noms, et que l'exégèse favorise une référence qui est purement christologique. Donc, c'est très technique ce qu'on voit ce matin, mais on voit des textes qui nous parlent de la divinité de Christ, et c'est important de comprendre qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir la divinité de Christ et qui vont chercher à contester cette interprétation-là. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est Jésus-Christ qui est l'espérance qu'on attend, c'est Christ qui va venir dans la gloire, et c'est donc lui le grand Dieu. Et la même règle s'applique à 2 Pierre 1:1, que Darby a bien traduit par « la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ ». Encore une fois, Dieu et Sauveur dans la même phrase, et il y a encore juste un article pour parler des deux. Donc, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Notre Sauveur est Dieu. 1 Jean 5, un des textes les plus clairs, s'il en est un. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Le démonstratif ici, c'est lui qui est le Dieu véritable, exige qu'il se rapporte à Jésus-Christ. Donc, lorsque les exégètes font l'étude du grec dans ce texte-là, ils ne peuvent trouver aucun échappatoire pour dire que c'est lui qui est le Dieu véritable. C'est ça que le texte grec mentionne. Alors, l'exégèse ne porte pas confusion. C'est le Fils qui est la vie éternelle et il est Dieu. Et on se garde des idoles ou des faux dieux. Comment? En croyant que Christ est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Croyez pas en personne d'autre qu'en Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et pour rejeter ce texte-là, les critiques doivent soit nier carrément l'inspiration des Écritures, ce que certains n'hésitent pas à faire, évidemment, ou encore affirmer que la christologie de Jean est biaisée. Alors, ils vont dire, non, Jean a écrit son épître, a écrit son évangile et ses épîtres et son apocalypse beaucoup plus tard, et donc, sa doctrine à lui était complètement faussée à ce moment-là. Donc, c'est comme si Jean, il ne dit pas la vérité. Les autres disent la vérité, mais pas Jean. OK? Donc, c'était les textes qui se rapportaient donc à l'expression ou au mot Dieu. Une autre expression qui est utilisée fréquemment dans la Bible, c'est Fils de Dieu. Et c'est une expression qui revient souvent, donc évidemment, on ne les regardera pas tous ce matin. Mais ce qui nous intéresse dans les témoignages qu'on va regarder, dans les versets qu'on va regarder, c'est est-ce que ce témoignage-là, ou est-ce que ce titre-là de Fils de Dieu rend témoignage à la divinité de Christ ou rend témoignage à son humanité? Parce que vous savez, Christ est 100% Dieu, mais il est aussi 100% homme. Est-ce que lorsqu'on dit Fils de Dieu, on pense que c'est le Fils de Dieu, donc l'homme, ou est-ce que c'est le Fils de Dieu l'égal à Dieu? A priori, qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un d'autre que Camille? Ah ah! Fils de l'homme, ça c'est une autre chose. Oui, OK, intéressant. Fils de l'homme a plus une connotation... en fait, fils de l'homme, ça a vraiment une connotation eschatologique. Hein? C'est qu'en disant fils de l'homme, il cite Daniel 7. C'est une autre histoire. Mais quand même, on pourrait dire que, juste humainement, fils de l'homme ferait plus référence à son humanité, fils de Dieu ferait référence à sa divinité. Mais c'est pas tout à fait exact, mais en tout cas, il y a quand même cette notion-là. Alors, allons voir quelques textes ensemble. Marc 13, 32. Dans Marc 13, 32, Jésus place le Fils au-dessus des anges. Alors, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Dans Marc 12, 1 à 12, on voit que le Fils est supérieur à tous les envoyés précédents. C'est la parabole du vigneron. Dieu a envoyé des serviteurs, des prophètes, la parabole du vigneron. Et à la fin, il a envoyé son Fils, qui était supérieur aux prophètes qui avaient été envoyés. On voit aussi dans Matthieu 11 que le lien entre le Père et le Fils est très étroit et implique une grande intimité. Matthieu 11, 27, « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc, c'est pas juste son humanité. On voit qu'il y a une communion intime entre le Père et le Fils. D'autres textes nous disent que le Père est comme le Fils. Alors, on voit dans trois textes ici, dans Genèse 5, 3, on voit qu'Adam a engendré un fils à sa ressemblance, à son image. Dans Jean 8, 39, les Juifs répondirent à Jésus, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Et dans Jean 5, 19, Jésus dit, « Le fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au père. Et tout ce que le père fait, le fils le fait aussi pareillement. » On voit encore cette communion, ce rapport étroit entre le père et le fils. Pour les Juifs, l'expression « fils de Dieu », est-ce que vous pensez que ça voulait dire qu'il se faisait homme ou qu'il se faisait Dieu? Quand Jésus parlait aux Juifs. Exactement. Eux, qu'est-ce qu'ils comprenaient lorsque Jésus disait « je suis le fils de Dieu » Est-ce qu'ils comprenaient « tu es un fils de Dieu comme nous parce qu'on est des êtres humains puis on a été créés à l'image de Dieu? » Non, les Juifs eux-mêmes comprenaient que Jésus, en utilisant ce titre-là, se faisait Dieu. Et on le voit dans Jean 5, 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, l'utilisation du titre « fils de Dieu » par Jésus, il se faisait lui-même égal à Dieu. Il a failli être lapidé pour ça. Dans Jean 10, 36, « Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le fils de Dieu. » Et dans Jean 19, 7, les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, car il s'est fait fils de Dieu. » Donc, selon la loi des Juifs, Jésus blasphémait en disant qu'il était fils de Dieu parce qu'il se faisait égal à Dieu, et donc, il méritait de mourir selon leur loi. Donc, cette expression-là, « fils de Dieu », a vraiment une connotation de divinité. Dans Hébreux 7.3 nous indique que le Fils de Dieu est éternel. Ça, c'est une qualité particulière. Il parle de Melchisédek qui est sans père et sans mère, sans généalogie et qui a ni commencement ni fin de jour, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Ensuite, le lien entre le Père et le Fils nous fait comprendre l'immense sacrifice auquel Dieu a consenti pour nous sauver, puisque le Père aime le Fils, n'est-ce pas? Dans Genèse 22, on voit le sacrifice, on voit quand Dieu demande le sacrifice à Abraham, Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Dans Matthieu 3, 17, « Et voici, une voix se fit entendre des cieux. Une fois fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, le fait que Jésus est le Fils de Dieu, le fait qu'il est Dieu, ça nous prouve aussi que ça a coûté quelque chose à Dieu pour nous donner son Fils en sacrifice. Donc, deuxième titre, on a vu le titre Dieu. Jésus prend le titre Dieu, le titre de Dieu à quelques reprises, et on voit que Fils de Dieu est une expression aussi qui fait référence à sa divinité. Un autre titre, c'est le titre Seigneur, qui est en grec Kurios. Alors, c'est un titre, c'est le titre qui est le plus commun pour Jésus-Christ, Seigneur. On s'accorde assez généralement pour penser que la première confession de foi, les premiers chrétiens, lorsqu'ils devaient faire leur profession de foi, confessaient que Jésus est Seigneur. On voit ça aussi dans Philippiens 2:11, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et dans 1 Corinthiens 12:3, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit, ne dit que Jésus est anathème, et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par l'Esprit Saint. Et on voit que les références sont nombreuses et que la connotation de la divinité est certaine. Mais le débat s'ouvre quand même parce que le mot « Seigneur » n'est pas utilisé uniquement pour faire référence à la divinité. Est-ce que Jésus a déjà été appelé « Seigneur » simplement par un terme de politesse? Jésus, est-ce qu'on a déjà dit « Seigneur » à Jésus en pensant pas qu'il était Dieu, juste en pensant, en disant « Monsieur »? Absolument. Absolument. D'où le débat à ce moment-là. Maintenant, il va falloir faire la distinction lorsqu'on étudie l'utilisation du mot « Seigneur ». Est-ce que c'est un cas où on élève Christ comme étant le Seigneur qui était annoncé qui était même dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même, ou est-ce que c'est juste un acte de politesse? Alors, l'expression « Seigneur » se dit d'un détenteur de l'autorité ou du pouvoir. Les maîtres face à leurs esclaves sont des curioi. Des maîtres, des seigneurs, n'est-ce pas? Ça se dit aussi comme un terme de politesse, comme monsieur, dans Jean 12, 21. Quelques Grecs s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Il parle à qui? Il parle à Philippe. On veut voir Jésus, il l'appelle Seigneur. Donc, c'est un terme de politesse. Et dans Jean 20, 15, Jésus est lui-même appelé Seigneur par politesse. Parce qu'elle ne le reconnaît pas. Jésus lui dit la femme, « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Et elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as apporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Donc, il y a eu des cas, effectivement, où le mot « Seigneur » était utilisé uniquement par un sens de politesse. Ça se dit aussi d'un maître spirituel ou d'un docteur, qui est parfois traduit par « rabbi ». En araméen, le mot est « Marie ». Maran est un titre royal et l'expression Maranatha que vous connaissez signifie quoi? Quelqu'un d'autre que Camille? Maranatha, c'est Seigneur, reviens, viens Seigneur. OK? Maran qui veut dire Seigneur et Atta, j'imagine, qui veut dire viens, je sais pas. Atta, ça veut-tu dire viens? Viens Seigneur, Maranatha. L'expression « Seigneur » aussi se dit pour désigner les rois, principalement l'empereur romain, surtout dans les milieux païens. Ça se dit aussi dans un sens religieux pour désigner une divinité. On le voit dans 1 Corinthiens 8:5. « Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel ou sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. » Donc ici, le mot « seigneur » est employé dans un terme religieux. Les autres, les païens, ceux qui servent d'autres dieux, servent d'autres seigneurs. Okay? C'est la même expression. Et c'est employé abondamment pour désigner le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël est appelé Seigneur. Et c'est pourquoi lorsque les premières confessions des premiers chrétiens disaient « Jésus est Seigneur », c'était une référence divine. C'était de dire que Jésus est Dieu. Quand on disait « Jésus est Seigneur », on dit « Jésus est Dieu » puisqu'on faisait référence au Seigneur de l'Ancien Testament. Quelques manuscrits de la mer morte utilisent le mot araméen « mar » pour désigner Dieu. En hébreu, c'est « Adonai ». Et le mot « Adonai » remplaçait le tétragramme. Bon, c'est intéressant. Ouais, mais dans quel sens exact Jésus est-il Seigneur? On peut affirmer sans trop de crainte de se tromper que pendant son ministère terrestre, Jésus était considéré comme un maître spirituel. Est-ce que c'est vrai? Donc, il y a plusieurs personnes qui ont appelé Jésus Seigneur uniquement par respect, parce que tu es un maître spirituel. Dans Jean 13, 13, Jésus dit lui-même, « Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » Mais les gens l'appelaient maître et Seigneur uniquement pour être poli. Dans Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Et même si Pierre s'est exclamé, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus fait remarquer que c'est son Père qui lui a révélé cette vérité-là. Les autres disciples, pas seulement les 12, suivaient surtout Jésus parce qu'il était un bon maître, qu'il était un enseignant, au départ à tout le moins. Après sa résurrection, c'est là où vraiment le sens de Seigneur a pris tout son sens et que le sens du titre « Curios » a été pleinement révélé. Il n'est pas devenu Seigneur après avoir été glorifié, mais sa glorification a mis en lumière sa véritable nature. Tel que promis, le Saint-Esprit a enseigné sur tout ce qui concernait Jésus dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra, en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, le Saint-Esprit est venu après à la Pentecôte et là, il a vraiment révélé la vraie nature de Jésus, comme quoi il était le Seigneur. Et c'est là vraiment où, après la Pentecôte, qu'on a dit Jésus est Seigneur et que c'était vraiment dans un sens divin. Jésus lui-même, après sa résurrection, a enseigné ses disciples sur ce qui le concernait. On voit ça dans Luc 24, 27. Et c'est d'ailleurs là, donc, dans l'Ancien Testament que le titre Seigneur a le sens de Dieu et pleinement appliqué à Jésus-Christ. Jean-Baptiste parut pour préparer la venue de Jésus. Marc 1, 2 à 3. Selon qui est écrit dans Ésaïe, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers. » Le mot « Seigneur » ici est utilisé dans un sens de politesse ou dans un sens divin? Divin. N'est-ce pas? C'était Dieu, c'est préparer le chemin de Dieu. Au jour de la Pentecôte, Pierre cite le prophète Joël. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer le nom du Seigneur. Est-ce que c'est invoquer le nom d'un prophète? Est-ce que c'est invoquer le nom d'un personnage, d'un homme qu'on respecte? Ou c'est invoquer le nom de Dieu? C'est invoquer le nom de Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans Acte 2, 36, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Par la suite, le nom de Curios, Seigneur, était employé régulièrement pour Jésus dans le sens de Dieu, avec la même référence donc à l'Ancien Testament. Dans Acte 22, 16, « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, lave tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Invoquant le nom du Seigneur qui était une promesse de l'Ancien Testament, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'était clair que ça faisait référence à Dieu. Et dans le Nouveau Testament, soit baptisé en invoquant le nom du Seigneur. Est-ce que c'était invoquant le nom du Seigneur Dieu de l'Ancien Testament ou c'était en invoquant le nom du Seigneur Jésus? C'est en invoquant le nom du Seigneur Jésus. L'Épître aux Hébreux ose attribuer au Fils Seigneur les paroles adressées au Créateur éternel. Ça, c'est un texte intéressant dans Hébreu 1, 10, 12. « Toi, Seigneur, en parlant de Dieu, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Et dans le contexte, il parle de la supériorité du Fils sur les anges. Donc, Hébreux cite un texte de l'Ancien Testament, « Toi, Seigneur, en disant, toi, Dieu, tu es éternel, tu es depuis le commencement, tu as tout créé, et il l'applique au Fils, en disant que le Fils est le Seigneur qui a tout créé, qui est conforme aussi avec, évidemment, l'Évangile de Jean qui dit qu'au commencement était la parole était Dieu, était avec Dieu, la parole était Dieu, et tout a été fait par elle. » Ces témoignages, évidemment, lorsqu'on les regarde tous ensemble, viennent confirmer avec beaucoup de force que Jésus est Dieu lui-même. Maintenant, il y a un autre titre qu'on va garder, c'est le « Je suis ». Quand Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, Moïse lui a demandé son nom. Vous vous souvenez? Qu'est-ce que Moïse a répondu? Qu'est-ce que Dieu a répondu? Il dit « Je suis celui qui suit ». N'est-ce pas? Dieu a dit qu'il était le « Je suis ». Traduit en grec par l'expression « ego emi », qui veut dire « moi, je suis ». La meilleure traduction française pour cette expression-là, c'est l'éternel. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est l'éternel, parce qu'en disant « je suis », Dieu est en train de dire qu'il était, qu'il est et qu'il sera. C'est je suis, c'est je suis de toute éternité. C'est pour ça que dans nos Bibles en français, on a traduit je suis. En grec, c'était ego emi. Alors, les deux mots ego emi reviennent sur les lèvres de Jésus avec une telle fréquence et parfois de telle façon qu'on ne peut pas ignorer que Jésus fait lui-même allusion au fait qu'il est le je suis de l'Ancien Testament. Donc, Jésus affirmait lui-même être Dieu. Dans Jean 8, 58, Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Qu'est-ce que les Juifs ont voulu faire après que Jésus ait dit ça? Ils ont pris des pierres pour vouloir le lapider. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de se dire Dieu. Eux avaient tout à fait saisi l'allusion que Jésus est en train de faire. On ne peut pas douter que Jésus disait ouvertement dans le texte qu'il est lui-même le Dieu de l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que les Juifs voulaient le lapider. Dans Jean 18, 5, 6, ego emi est utilisé simplement pour dire c'est moi. OK? Et là, c'est intéressant. Regardez le texte. C'était sur dans le jardin de Gethsémané quand ils sont venus chercher Jésus. Alors, Jésus dit, « Qui cherchez-vous? » À la foule qui était venue avec des bâtons et tout ça. Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur répondit, « C'est moi, ego emi. » Est-ce que c'est quoi qu'il dit là? Il dit juste, « C'est moi. » Mais le mot qui est utilisé, « ego emi. » Judas qui le livrait était avec eux. Et lorsque Jésus eut dit, « C'est moi. » Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que la foule a fait? Ils ont reculé puis ils ont tombé par terre. Ceux qui étaient là ont compris encore une fois que Jésus, en disant « Ego emi », disait « Je suis ». Et là, ils ont comme pris peur puis ils ont reculé. Donc, c'est intéressant. Et il y a sept « Je suis » dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean cite sept fois Jésus en train de dire « Je suis ». S'il y en a qui savent, quelques-uns de ces « je suis », qu'est-ce que Jésus est? Qu'est-ce que Jésus dit ou affirme être dans l'Évangile de Jean? Je suis le pain de vie, la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité, la vie, et je suis le vrai cep. Dans ces sept expressions, Jésus utilise le nom de Dieu, ego emi. Et à travers ces affirmations-là, Jésus se révèle à ses auditeurs. Il affirme sa divinité et dévoile un aspect de sa personne. Un autre texte très clair qui attribue un nom divin à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga qu'on voit dans l'Apocalypse. Apocalypse 1, 4 dit « Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. » Et dans Apocalypse 1, 4, cette expression-là est attribuée au Père. Vous irez le lire. Quatre versets plus loin, dans Apocalypse 1, 8, Jésus dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Et cette expression-là est attribuée à Jésus au verset 8. Donc, on a un superbe parallèle ici dans Apocalypse. Jésus qui est le premier et le dernier, et c'est Dieu qui est le premier et le dernier. L'étude des paraboles de Jésus montre que dans 20 d'entre elles, Jésus se représente lui-même dans le rôle ou sous l'image qui est employé pour Dieu dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel 34, le berger de son peuple, c'est qui? C'est Dieu. Dans Jean 10, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Comprenez encore une fois que pour le Juif qui reçoit les paroles de Jésus, qui a cet enseignement qui connaît la loi, qui connaît l'Ancien Testament, il ne peut pas ne pas comprendre. Nous, on peut ne pas comprendre si on n'a pas cette culture-là. Mais pour eux, c'est impossible qu'ils ne comprennent pas que Jésus s'approprie les titres du Père qui était dans l'Ancien Testament. Dans Ésaïe 54, 5, Dieu se présente comme étant l'époux d'Israël. Et dans Matthieu 9, 15, Jésus est l'époux. Il y en a beaucoup d'autres textes comme ça qui montrent la divinité du Seigneur Jésus. Et les preuves bibliques sur la divinité de Christ, il y en a tellement que c'est totalement écrasant. Ça, c'est au niveau des noms qu'on vient de voir ce matin. Maintenant, il y a d'autres aspects qui prouvent la divinité de Christ. Et ce sont les attributs divins. Okay, les noms et les titres donnés à Jésus sont des preuves suffisantes en elles-mêmes. Honnêtement, si on avait juste les noms divins dans notre étude, les noms divins que Jésus s'est donnés ou qu'on lui a donnés, on pourrait déjà avoir cette conviction que Christ est Dieu. Mais il y en a d'autres preuves. Parmi celles-ci, donc, on trouve les attributs de Dieu que Jésus possède. On voit dans Colossiens 2:9, il est écrit « Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Jean 16:15 dit que « Tout ce que le Père a est à moi. » Et Jean 10:30 dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Maintenant, il faut faire une distinction ici entre les attributs qu'on dit moraux et les attributs qui tiennent de la nature de Dieu. Qui peut m'expliquer vite fait c'est quoi la différence entre un attribut moral et un attribut ou un attribut moral et un attribut qui tient de la nature de Dieu? C'est pas mal de vous demander ça ce matin, hein? Quand même. Mais moi aussi, je me suis couché tard, là. On recevait hier. Alors, les attributs moraux, comme par exemple l'amour, la bonté et la miséricorde, est-ce que ça prouve la divinité de Christ? Non, ça ne prouve pas la divinité de Christ. Parce qu'un homme parfait comme tel les reflète. Même moi, à l'occasion, je peux les refléter. À l'occasion. Oui, l'humilité venant en tête. Si je n'avais pas été humble, je n'aurais pas dit à l'occasion. Hein? J'aurais dit plus souvent que ça. Quels sont donc les attributs de Dieu que Jésus possède? Okay. Quels sont les attributs de Dieu que Jésus possède? S'il y en a qui en connaissent quelques-uns? L'omniprésence, je vais te dire non. L'omniscience, oui. L'omnipotence, oui. La sainteté, oui. Mais ce serait moral, par exemple. Oui, ça serait plutôt un attribut moral. Alors, regardons-en quelques-uns. On voit que d'abord, Jésus est éternel. Jean 58 nous dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Dans Moïse 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, on voit que Christ est éternel, que Jésus est éternel. Il est où, quoi? J'étudie Moïse? C'est hébreu. C'est parce que, tu sais, Moïse, c'est un hébreu? Non, non. C'est bien que tu me corriges, surtout quand on est enregistré. On veut pas laisser des lapsus. Là, les gens font des recherches sur Internet. Le livre de Moïse, ça doit être... Non, mais il doit y avoir de quoi vraiment d'important d'écrit dans ce livre-là. Il en trouve un, probablement qu'ils vont en trouver un sur Internet. Je ne serais pas surpris, effectivement. On voit aussi dans Hébreu, toujours, 1:12, que Jésus est immuable. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés, mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Encore une fois, c'est le même texte que j'ai lu tantôt qui cite l'Ancien Testament, qui parle de Dieu et qui l'applique à Jésus. Jésus est omniscient à l'exception du jour et de l'heure où il s'est volontairement soustrait de cette connaissance-là. On voit dans Jean 1:48, « D'où me connais-tu? » dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Jésus est omnipotent. Matthieu 28:18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir, c'est omnipotent. Et Jésus est omniprésent. Qui a dit omniprésent tantôt, puis que j'ai dit que ça n'a pas d'allure? C'est Hugues. Bien, quelque part, Jésus est omniprésent maintenant, dirons-nous, n'est-ce pas? Jésus dit lui-même dans Matthieu 18:20, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est Jésus qui est au milieu d'eux. Pour que Jésus soit partout, il faut qu'il soit omniprésent. Dans Matthieu 28, toujours, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et dans Éphésiens 4:10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Si Christ remplit toutes choses, on peut affirmer que maintenant, il est omniprésent. Il n'était pas dans son humanité. Maintenant, la question, est-ce que Jésus maintenant est omniscient? Probablement que oui, effectivement. Maintenant, je suis convaincu que Jésus, c'est le jour et l'heure, puisqu'il a rejoint son Père. Et il est omniprésent comme il n'était pas omniprésent quand il était sur la terre. Oui, non, je suis d'accord avec toi, absolument. On peut faire cette distinction-là entre le Christ pendant son ministère sur la terre et le Christ maintenant ressuscité qui est dans les cieux et qui remplit toutes choses, comme nous dit. Mais même, le Père seul, à ce moment-là, Jésus était encore sur la terre. Jésus n'était pas monté auprès de son Père. Maintenant, il est auprès de son Père. Je crois qu'on pourrait, moi, j'aurais aucun problème à dire que Jésus doit savoir l'heure aujourd'hui. Je pense pas que Jésus est au ciel à la droite de son Père et que son Père il a encore des secrets, là. Je pense pas. Mais regardez, c'est correct, Mme Paradis. C'est écrit dans Marc 13, ou je sais pas quoi, que c'est vraiment qu'il sait pas. Mais c'est vrai que quand Jésus était sur terre, il le savait pas. On rajoutera rien là-dessus. OK. Alors, c'était le deuxième point, n'est-ce pas, les attributs divins. Donc, Jésus a des attributs qui sont divins, il y a uniquement Dieu qui peut avoir ces attributs-là. OK? Un autre point. Là, tu rentres vraiment là, dans la christologie. J'ai 35 semaines d'études sur ce sujet-là. OK? Je pense que tu vas un petit peu trop profond. La kénose, est-ce que Christ s'est dépouillé la kénose? Fais une recherche Internet, voir qu'est-ce que ça veut dire. OK? C'est une grande question. Il n'y a pas de réponse simple. D'accord? Parce qu'effectivement, c'est une question qui a été largement posée chez les théologiens. Comment se fait-il que Jésus, qui est omniscient, ne savait pas dans son humanité? Christ a renoncé à quelque chose volontairement, mais c'est pas ici ce matin qu'on va régler cette question-là. Donc, troisième point que Jésus a qui manifeste sa divinité, ce sont les œuvres divines. Donc, en plus des attributs et des titres, il y a aussi des œuvres divines qui sont attribuées à Christ. On ne parle pas de miracles et de signes ici qui rendent témoignage de lui, parce que faire des miracles et faire des signes, ça ne prouve pas qu'il est Dieu. Moïse a fait des miracles, et les apôtres ont fait des miracles qui ne sont pas Dieu. Alors, on parle de quoi? On parle plutôt des œuvres qui sont les œuvres que Dieu seul peut faire. Alors, quelles sont les œuvres que Dieu seul peut faire? La création, oui. La résurrection, non. Pardonner les péchés, oui. Le quoi? Non, les miracles, il n'y a pas un que Jésus qui peut faire ça. Je pourrais pratiquement en faire, moi-même, si Dieu voulait, les miracles. Il n'y a pas de problème. Les apôtres faisaient des miracles. Moïse a fait des miracles. Okay? Alors, trois œuvres divines qui sont exclusivement réservées à Dieu. Il y a juste Dieu qui peut faire ça et Jésus le fait. Alors, c'est une preuve de sa divinité. Le premier, on va regarder, c'est que Jésus pardonne les péchés. Dans Marc 2, 7, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus fait ensuite un miracle pour prouver que ce qu'il vient de dire est vrai et qu'il peut vraiment pardonner les péchés. Ce que seul Dieu peut faire. Donc, encore une fois, Jésus, en pardonnant les péchés, affirme sa divinité. Les Juifs savaient très bien qu'uniquement Dieu pouvait pardonner les péchés. C'était dans leur culture, c'était dans leur loi, dans leur texte, ils le connaissaient. Nous, on n'a pas toujours cette notion-là. Alors, quand il dit, lequel est le plus aisé de dire, prends ton lit et marche, ou tes péchés sont pardonnés? Ben, prends ton lit et marche, je vais te prouver que je peux pardonner les péchés. Donc, Jésus affirme sa divinité. Jésus est le Créateur. Dans 1 Colossiens, ou pas 1 Colossiens, mais plutôt Colossiens 1, 16. Car en lui, en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et dans Hébreux 1, 2, nous dit que le Père, dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, on voit encore une fois avec avec Jean 1 que la parole a tout créé et que Christ est la parole. Donc, les textes qui nous parlent que Jésus est le Créateur sont nombreux. Comment peut-on penser que Jésus est le Créateur s'il n'est pas Dieu, puisque tout a été créé par Dieu? Et dernier point au niveau des œuvres de Dieu, c'est que Jésus est le Rédempteur, n'est-ce pas? Jésus, c'est notre Rédempteur, c'est lui qui nous a rachetés. Mais dans l'Ancien Testament, c'est qui était le Rédempteur? C'était Dieu lui-même qui était le Rédempteur. Dans l'Ancien Testament, c'est Yahvé qui rachète son peuple. Deutéronome 15:15, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Dans Ésaïe 62:12, on les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Donc, le fait même que Jésus, c'est le Rédempteur, nous prouve encore une fois, est un autre point qui nous prouve sa divinité, puisque c'est Dieu lui-même qui était le Rédempteur dans l'Ancien Testament. Le dernier point qu'on va regarder ensemble ce matin, excuse-moi. En fait, c'est pas que personne ne pouvait guérir de la lèpre. Il était écrit qu'on pouvait être guéri de la lèpre, mais il n'y a aucun... Pardon? Chasseur des bons muets. Bon, là, tu parles des signes messianiques. Okay? Effectivement, il y avait des miracles qui étaient destinés au Messie pour qu'on reconnaisse que c'est le Messie. Okay? Notamment, ouvrir les yeux des aveugles, etc. Hein? Les boiteux et tout ça, c'était des signes messianiques. C'était des signes qui étaient destinés à ce qu'on reconnaisse Jésus. Mais ce ne sont pas des œuvres uniquement que Dieu peut faire. Ésaïe, c'est-tu Ésaïe ou qui a guéri quand même un lépreux? C'était Naaman. C'était Élie ou Élisée. Élisée qui a quand même guéri un lépreux. C'était pas un Israélite. Il n'y a aucun Israélite qui a jamais été guéri de la lèpre. Mais il y a eu un païen qui a été guéri de la lèpre. Naaman. Exactement. Il est descendu dans le Jourdain, etc. C'était pas un juif. Non, mais quand même. Et des miracles. Moïse a fait des miracles, comme je disais tantôt, et les apôtres aussi. Donc, les signes ne sont pas des œuvres uniques, explicitement divines, comme la création, la rédemption et... Quel était l'autre? Le pardon des péchés. Exactement. Merci de suivre. Exact. Alors, c'était des signes messianiques, exactement. Donc, quand Jésus a dit aux envoyés de Jean-Baptiste, ben, regarde, les aveugles voient, les boiteux marchent, c'est donc la preuve que c'est moi, même si, et on l'a vu dans le royaume de Dieu, même si le royaume que je prêche, c'est pas ça que tu t'attendais. Et le dernier point, donc, qu'on regarde ce matin, ce sont les honneurs divins. OK? Dieu est un Dieu jaloux. Est-ce que c'est vrai? Dieu ne partage pas sa gloire. Il condamne tout culte offert à un autre. Je veux dire, si Jésus reçoit les honneurs divins et qu'il n'est pas Dieu, ouch! Je ne voudrais pas être à sa place, moi, là. Non, mais comprenez-vous? On ne donne pas les honneurs divins à n'importe qui. Dieu est un Dieu jaloux. Allez pas adorer Jésus s'il n'est pas Dieu, là. Regardons ensemble si Jésus a reçu des honneurs divins. Dans Jean 5, 22-23, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Quels sont donc les honneurs auxquels Jésus a eu droit? D'abord, on se prosterne devant lui pour l'adorer. Et pas juste une fois, plusieurs fois. Lorsqu'il était enfant, dans Matthieu 2, Les mages disent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Dans Matthieu 14, 33, Jésus est devenu homme. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Et lorsqu'on a compris que le Fils de Dieu était un titre divin, ils se prosternent devant « Tu es véritablement Dieu. » Et donc, ils l'adorent. En tant qu'homme, dans les cieux, dans Apocalypse 5, 8, quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et une coupe remplie d'or et de parfum, qui sont les prières des saints. Donc, les vieillards se prosternent devant l'agneau. L'agneau, c'est qui? c'est Jésus. Et là, on est au ciel à ce moment-là. Il se prosterne devant, il l'adore. Comment peut-on adorer Jésus au ciel s'il n'est pas Dieu? Les anges aussi l'adorent, on voit ça dans Hébreux 1, 6. Et lorsqu'il est introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Est-ce que vous trouvez ça dans vos Bibles? Est-ce que vous avez déjà lu ça? Hein? Mais c'est tiré d'où, ça? Que tous les anges de Dieu l'adorent? Non. Il cite Deutéronome 32, 43. Mais si vous allez lire Deutéronome 32, 43, vous allez dire, où c'est écrit ça? C'est qu'il cite la Septante, il cite la version grecque de 32, 43. Je n'irai pas le voir pour rien, mais Deutéronome 32, 43, c'est ce qu'il cite comme texte. Mais bref, dans notre version à nous, qui est traduite de l'hébreu, vous ne trouverez pas que tous les anges l'adorent. Mais l'Épître aux Hébreux le reprend et le dit comme ça. Oui. Oui. Il lui rendait hommage. Oui, oui, oui. Ben exactement. Donc, mais par contre, c'est vrai que le terme peut être traduit par rendre hommage. Et c'est là où il faut regarder le contexte pour savoir est-ce que je traduis ce mot-là par un simple hommage ou est-ce que je le traduis par un acte d'adoration. Et par exemple, dans la barque, lorsqu'ils disent « Tu es véritablement le Fils de Dieu », est-ce qu'ils sont en train de lui rendre hommage ou s'ils sont en train de l'adorer? Ils viennent dire qu'il est Dieu, ils se prosternent devant, donc le geste d'adoration est là. OK? Oui, mais c'est cité, oui. Sauf que si tu vas voir la citation de Hébreux 1.6, il cite quoi? Il cite l'Ancien Testament. Il cite Deutéronome 32.43. Si tu vas lire Deutéronome 32.43, ça dit « Nation, chantez des louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires et il fait l'expiation pour son pays et pour son peuple. » Est-ce que vous voyez une référence aux anges là-dedans? C'est ça le texte là, qu'il cite. Alors, vous ne la trouverez pas. Mais les Septante dit dans Deutéronome 32, 43, pour le même verset, « Cieux, réjouissez-vous avec lui et que tous les anges l'adorent, tous les anges de Dieu l'adorent. » Il cite, Hébreu, cite Deutéronome 32, 43, mais dans la Septante. Et nous, notre Bible, la Septante qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament, et nous, nos Bibles, l'Ancien Testament est traduit de l'hébreu et non pas du grec. Et donc, c'est pour ça que lorsque nous, on va voir littéralement ce qui est écrit dans Deutéronome 32, 43, il n'y a aucune espèce de référence aux anges. Évidemment, c'est dû à la complexité du langage hébreu, hébraïque, qui est traduit dans la Septante par ange. Tu l'as dans le sommaire? Bon, alors, dans Deutéronome 42, dans la sommaire, ils ont corrigé le tir. Ben, à ce moment-là, mais tu comprends qu'il se base sur la Septante en disant ça. Oui, la sommaire, c'est une version française. OK, dernier point, et oui, à peu près le dernier point, les honneurs divins. Est-ce qu'on peut prier Jésus? Comprenez que si Jésus est Dieu, je peux le prier. S'il n'est pas Dieu, je ne peux pas le prier. Est-ce qu'on peut prier Jésus? Je vous pose la question, là. Dites-moi oui, mais sortez-moi un texte pour me le prouver. OK, laisse-moi répéter juste pour l'enregistrement. Au début de la vie chrétienne de Claude, on lui avait dit, tu pries le Père au nom de Jésus. Et c'est vrai, c'est correct. OK? Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous l'accorderai. OK? C'est ça que Jésus dit lui-même. Maintenant, est-ce que c'est exclusivement ça? Est-ce qu'on doit absolument le respecter, cette règle de dire « je dois prier le Père au nom du Fils pour être exaucé » ou si on peut parfois s'adresser directement à Jésus? En d'autres termes, ce que je vous demande, c'est est-ce que dans la Bible, il y a des endroits où on voit des prières adressées directement à Jésus? C'est ça ma question. Quand Paul voulait être guéri, il s'est effectivement adressé à Jésus. Dans 2 Corinthiens 12, 8, « Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Et dans le contexte, si on va lire 2 Corinthiens 12, c'est le Seigneur Jésus. Paul est malade, il y a une écharpe dans la chair, il veut en être guéri, il prie le Seigneur d'en être guéri. « Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Et le Seigneur, encore une fois dans le contexte, c'est Jésus. Donc on en a un ici. Est-ce qu'il y en a d'autres? Demander en mon nom, ça irait par exemple dans le sens de Claude. Je prie le Père au nom de Jésus. Et encore une fois, c'est correct là, de prier le Père au nom de Jésus. Là. Je ne vous dis pas que ce n'est pas correct. Mais est-ce qu'on peut prier Jésus? Est-ce que tu aurais un texte qui montrerait que prier Jésus, ça, c'est possible? D'abord, disons, Étienne, qui a dit ça? Étienne, oui, voilà. Alors, dans Actes 7, 59, « Et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » C'est assez explicite, quand même, comme prière. Seigneur, dis pas, « Dieu reçoit mon esprit au nom de Jésus. »« Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et je le répète encore une fois, c'est correct de prier le Père au nom de Jésus. Jésus a dit lui-même de faire ces choses-là. Mais de prier Jésus directement, c'est correct, on peut le faire. Et pourquoi on peut le faire? Parce qu'il est Dieu. S'il n'était pas Dieu, on ne pourrait pas le faire. S'il n'était pas Dieu, ça serait un sacrilège, comprenez-vous? Ça serait, wow, Dieu serait scandalisé, la colère de Dieu serait sur nous. Qu'est-ce que vous avez à adorer mon fils qui est juste un homme? Non, 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 c'est, comprenez-vous? C'est pas ça. Jésus, c'est Dieu, et donc on peut l'adorer et on peut le prier directement. Dans l'Ancien Testament, invoquer le nom du Seigneur veut dire carrément le prier. Invoquer le nom du Seigneur, qui était Yahvé à ce moment-là, dans l'Ancien Testament, c'était le prier. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qu'on invoque. Dans 1 Corinthiens 1, 2, il est écrit à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelé à être saint, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus. Invoquer le nom du Seigneur Jésus, c'est prier le Seigneur Jésus. Dans l'Ancien Testament, on invoquait le nom de Dieu, c'était pour le prier. Là, on invoque le nom du Seigneur Jésus, et donc on peut le prier. Et pour revenir à Suzy tantôt, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est toi qui as mentionné ça tantôt. Le point que je mettrais l'emphase, et peut-être c'est ce que tu voulais dire, puis je ne l'ai juste pas compris, mais Jésus dit, ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. C'est ça que tu disais? Ben écoute, je n'avais rien compris. Ça m'arrive des fois de rien comprendre. Alors, c'est pas écrit, demandez-le à mon nom, puis le Père va le faire. C'est écrit, demandez-le à mon nom, et je vais le faire. Suzy, mais toutes mes excuses. OK. Ah, bonne question. On n'est pas dans le sujet du tout, parce que là, c'est même fini, mais je vais accepter la parenthèse juste pour vous, Mme Paradis. Je sais que vous aimez ça. OK? Alors, on sait que Jésus est Dieu et qu'on peut le prier. Une fois qu'on a accepté ce principe-là et qu'on a vu des textes comme ça le faire, on sait aussi que le Saint-Esprit est Dieu. C'est une autre étude. On pourrait prouver par l'étude de la parole de Dieu que le Saint-Esprit est Dieu. Est-ce qu'on prie le Saint-Esprit? Écoutez, honnêtement, là, je vous dirais n'importe quoi parce que je ne me souviens pas, mais je crois que oui. OK? Je crois que oui, mais il va falloir que je vous revienne. Je n'aurai pas le choix, il va falloir que je vienne enseigner dimanche prochain. Oui, mais là, vous avez encore le pattern de prier le Père au nom du Fils. Puis c'est correct. Si vous faites ça comme ça, c'est correct. Mais est-ce que vous pourriez adresser une prière directement au Saint-Esprit? Écoute, je voudrais pas me prononcer parce que j'ai pas les textes, OK? Puis moi, dire n'importe quoi, vous savez, j'aime pas ça. Mais il me semble que lorsque j'ai fait mon étude, qu'on pouvait adresser certaines... C'est le consolateur, si je prie pour de la consolation. Esprit Saint, viens. Esprit Saint, entre dans mon cœur. Est-ce que je peux prier le Saint-Esprit? Oui, Yannick? Il me semble que oui. Je suis à peu près sûr, là, je suis sûr à 99% que oui. Mais les exemples ne sont pas légion, par exemple. OK? Mais c'est sûr, si je prie, Saint-Esprit, rentre dans mon cœur. Il me semble que je suis en train de prier Saint-Esprit. OK, écoutez, le temps est fini. Merci beaucoup. Et puis, on se revoit en janvier avec l'étude sur le millénium. Oh, c'est tellement intéressant. Merci à tous. J'ai pas de notes. Je suis désolé, il y a pas eu... je crois que Danny n'a pas eu le temps de faire des copies. Ah, il y en a là, excusez-moi. Il y a des notes ici en avant pour ceux qui veulent avoir des notes. Merci, Danny, Gosselin, pour les notes.